זה מכיר לנו פסוק, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה. Donc, quand Paro a appris qu'il devait y avoir le sauveur des Juifs qui allait naître, donc il a fait cette première xéra, de dire aux sages-femmes de tuer les garçons, de laisser vivre les filles, et puis ensuite, comme ça n'a pas marché, puisqu'elles se sont éclipsées en disant que les Juifs accouchaient trop vite, alors il a donné l'ordre de jeter tous les enfants mâles au Nil, etc. Donc il y a eu la xéra, elle est en plusieurs étapes. Le passage qui nous intéresse, c'est celui-là. Il a dit, le roi d'Égypte, la mialédote à Ivriot, aux sages-femmes juives, à Cherchem, à Achat, que le nom de l'une, c'était Shifra, Beshem Hachénit, et le nom de la deuxième, c'est Poua. Alors Shifra et Poua, c'est des noms qu'on n'a jamais entendus. Même pour trouver une racine juive, il faut qu'on se fatigue. Et en réalité, on a vu cette semaine qu'il y a une machloquette dans le Midrash et dans les Mfarshim. Est-ce que c'était des Juives ou des Égyptiennes? Alors vous allez me dire, c'est marqué la Mialedot Aïvriot. Alors, Rashi fait le Pshat Pashu, c'est-à-dire Mialedot Aïvriot, c'est-à-dire les sages-femmes juives. D'accord? Mais les Balei Tosfot, dans Moshav Zekinim, le Balei Tosfot, pas Dat Zekinim, Moshav Zekinim, il dit c'est quoi Mialedot Aïvriot, les accoucheuses des Juives. Pas les accoucheuses juives, mais il y a les dotes à Ivriot en hébreu, il y a cette formulation. Et donc les accoucheuses des juives, mais en réalité c'était des égyptiennes. Et si c'était des égyptiennes, alors on peut comprendre qu'elles appellent Shifra et Poua. Mais Rashi lui ne fait pas du tout ce pchat-là. Il fait le pchat habituel qu'en réalité c'était des juives. Et non seulement c'était des juives, mais c'était des juives connues, puisque c'était la mère et la sœur de Moshe Rabbeinu. Ok ? Et c'est ce qu'il dit au Rashi. Rashi, c'est marqué Shifra Zou Yocheved. Shifra, c'est le surnom de Yocheved, la mère de Moshe. Et pourquoi on l'appelle Shifra? Shifra, c'est venu du mot Shefar, la beauté. Al-Shem, Shemeshaferet et Avlad, parce qu'elle embellissait l'enfant. Oui. Comment on peut embellir un enfant? Alors, quand un enfant est né, souvent il est un peu fripé, etc. Alors, elle s'arrangeait pour le rendre beau, lui donner des couleurs. Quand la mère le voit, elle dit « Ah, qu'il est beau mon fils, il est le plus beau du monde !» D'accord, elle a envie encore d'avoir des enfants. Elle se préoccupait, elle l'arrangeait, elle le nettoyait, elle le faisait propre avant de l'amener à sa mère pour que le premier regard avec l'enfant, c'est un regard d'amour. Donc elle se préoccupait de ça. Donc « Shifra Zuyocheved », donc « Shifra » on va traduire comment ?
La beauté.
L'embellisseuse, c'est son surnom. D'accord ? Elle embellissait l'enfant. Poua, le mot Poua, Zoumiriam. Ça, c'est la sœur de Moshe. Et pourquoi on l'appelait Poua ? Poua, ça vient du mot chanter, parler. Et à Poua, elle s'appelait la chanteuse. Al-Shem chez Poua, parce qu'elle discutait, ou Medaberet, et elle parlait, Ve'oga, et elle s'exprimait la Vlad avec l'enfant. D'accord ? Donc c'est déjà des techniques un peu nouvelles. On parle à l'enfant, on lui parle, on lui dit, on lui dit voilà, tu es attendu, tu es le bienvenu. Kederech Hanashim, comme des femmes, Amefaisot, qui calme, Tinok Abouche, un enfant qui pleure. D'accord ? Elle lui parle, mon petit chéri, calme-toi, ça va aller, n'aie
pas peur. Elle le
console. Voilà. Mais comment elle a le temps de faire tout ça ? Alors c'est. Merci d'entendre la foi.
Voilà.
C'est à cadence, hein ?
Voilà. Donc il dit Gérard, c'est bizarre ça. Donc une elle s'appelait l'embellisseuse et l'autre elle s'appelle Poura la parleuse. Alors il dit, donc ça c'est les paroles de Rashi. Rabbi Yoram dit Loniz Keruklal, on n'a pas rappelé du tout Mishmotehem les noms chez Nikriwa Adarshav avec lesquels ils ont été appelés jusqu'à maintenant. Ça veut dire que, vous vous rappelez, on a déjà parlé de cette histoire que toute la naissance de Moshe Rabbeinu, elle est déjà mystérieuse. C'est un homme de Lévi qui a épousé une fille de Lévi et qui a eu un enfant qui s'appelait X, donc on ne connaît même pas le nom. Donc en réalité, nous on a dit que la mère de Moshe c'est Yocheved et sa sœur c'est Myriam et que Moshe, etc. Mais même Moshe, on ne connaît pas son vrai nom. Moshe, c'est le nom que lui a donné Bithya, la fille de Paro. Et ici aussi, il dit, tiens, c'est quand même étonnant, pour la deuxième fois où on trouve... la mère et la sœur de Moshe, Lonis Kiruklal Bishmodehem, elles ne sont pas rappelées du tout par leur nom chez Nikro Avadarshav, avec lesquelles elles ont été placées jusqu'à maintenant. Et la Nikre Ukan, elles ont été appelées ici Mishmot Meyuchadim, avec des noms particuliers. Oui, c'est des noms particuliers qui correspondent en réalité à leur fonction. D'accord ? Toutes les deux, c'était des sages-femmes en chef.
Comme des surnoms ?
Comme des surnoms, voilà. Alors, c'était pas elle qui accouchait les 600 000 juifs. Il devait y avoir des sous-sages-femmes. Mais elles, c'était les responsables. D'accord ? Et à titre de responsables, ils avaient donné. On leur avait donné ce nom-là parce que c'était leur caractéristique. C'était cette sage-femme-là, elle est formidable, elle est souriante, et celle-là, elle est comme ça. Mm-hmm. Iné. Voici pourquoi c'est comme ça, qu'on ne leur a pas donné leur nom et on a préféré leur donner un surnom. Kitachen, c'est possible, ve'efshav, et c'est prouvé, chez Bidvarim Ketanim, que dans des choses petites, va'filu Bidvarim Achi Ketantanim, même dans des choses petites, c'est-à-dire minuscules, que mo'ele.
Ça veut dire ça, minuscule comme ça.
Comme ces choses-là, de ces caractéristiques-là, de chanter à l'enfant, d'arranger l'enfant, c'est des détails de la vie. Mais Shippour, l'arrangement de l'enfant, ou Pius, et calmer Tinokim des enfants, Shioum et Adrachim, que c'est en finalement le chemin, Asher Nashim Osot Tamid, que les femmes font tout le temps. C'est-à-dire, c'est l'habitude d'une femme, il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, c'est la normale qu'une sage-femme, elle va calmer l'enfant et qu'elle lui parle, etc. V'em basé, et elles, par cela, Zahou, Likare, Beshemot, elles ont mérité d'être appelées par ces noms-là. Des points de détail dans leur vie. Et il dit, c'est quand même étonnant que finalement, c'est un point de détail de leur vie et de leur travail qui va leur donner leur nom. Des Inyan Shemot, le sujet du nom, ou Ikar Metsiuto, c'est l'essentiel de l'existence, Shalano Seotam, de celui qui le porte. Dans la Torah, c'est d'ailleurs le nom et du Chumash et de la Paracha, c'est Shemot. Toute la Paracha, elle démarre sur ce nom-là, et donc c'est tout à fait paradoxal qu'une Paracha qui s'appelle Shemot, on trouve là ni le nom du père de Moshe, ni de la mère de Moshe, ni de Moshe lui-même, et que même sa mère et sa sœur, quand elles sont citées par des surnoms. Donc il dit que des Inyan Shemot, je reprends cette ligne-là, le sujet du nom d'une personne, ou Ikar Metsiuto, c'est l'essentiel de sa réalité chez la Noseotam. Ça veut dire quoi? Zot Omeret. Ça veut dire, Shebe Peulot Elou, que dans ces actions-là, de ces deux femmes, qui sont une d'arranger l'enfant et l'autre de le calmer, Kol Kulan, tout entière, Naasu Mizu Ametsiut, c'est devenu leur réalité. Iné, et donc voici, Kitachen, c'est possible, chez Davar Katan Kazé, qu'une chose petite comme celle-là, qui est en fait un point de détail, même dans leur travail, Yahvé, elle fasse exister et colle à Adam tout l'homme. Ça veut dire, il dit comme ça. Il dit que on aurait pu appeler ces femmes, les accoucheuses, celles qui ont porté le peuple, celles qui sont responsables du peuple, celles qui ont donné leur vie pour le peuple. Parce qu'en réalité, on sait que Paro, il leur avait dit, si vous ne faites pas ce que je vous demande, vous serez coupable de mort. Et donc, ça aurait pu être un nom qu'elle porte avec beaucoup de fierté. Et en réalité, on a choisi un point de détail dans leur travail. Donc, ça veut dire, il dit, de là, je vois quelque chose. Alors, on peut expliquer, il y a une raison pourquoi. Qu'elles faisaient bien leur travail, etc. Mais il dit, on voit de là qu'une petite chose de la vie, une petite chose de l'existence, c'est elle qui peut exprimer toute la réalité de cet être-là. Alors, où est-ce qu'il veut aller? Regardez. Donc la dernière, j'ai d'abord katan kaze yaved koladam en anvarim. Regardez bien ce paragraphe pour bien souligner. Hem advarim, ce sont les choses shanu omrim tamid, que nous disons tout le temps. Il dit, je répète tout le temps ça à mes élèves. Ki en babria, il n'y a pas dans la création d'Hachem lo dvarim ktanim velo dvarim dolim. Vous soulignez toute cette ligne là. Il n'y a pas dans la création des choses petites et des choses grandes. Ça n'existe pas petit et grand. Et là, akol talouy ba adam. Tout dépend de l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme qui va donner la puissance de la chose. Et comment il va la donner? Dans son investissement. Adam agadol, un homme grand, ou à oler, il marche, venose alumot shel gadlut, et il porte des gerbes de grandeur. Alors, c'est, il est très poétique, hein, souvent lui. Mais advarim achiktanim, des choses les plus petites. C'est-à-dire, les grands hommes, oui, ils portent des valises pleines de petites choses. Et c'est ça qui les rend grands. C'est-à-dire qu'ils arrivent à donner une puissance, une valeur, un intérêt à des choses toutes petites. Ou l'Adam akatan, mais l'homme petit, gam advarim ayoter ramim beatzmam, même des choses très élevées, mit avim biyadav, deviennent dans ses mains les répèches des ordures, des hashpatot et des poubelles. Oh. Ça veut dire qu'en réalité, oui, c'est toi qui donnes de la valeur aux choses, c'est toi qui fais qu'une chose elle est grande ou petite. Il n'y a pas dans le monde des grandes ou des petites choses. Ça peut être une fleur, ça peut être un papillon, tu peux le transformer. Ça veut dire chanter pour un enfant, ça peut devenir quelque chose d'extraordinairement grand. Et donc il dit, c'est ça le sens que veut donner la Torah. Quand la Torah elle dit que cette femme, on l'appelait la chanteuse, c'est parce qu'en réalité, dans cet acte, qui est un petit acte par rapport... C'est-à-dire, pour nous, qu'est-ce qui est grand? Pour nous, c'est que ces femmes-là, elles ont donné la vie pour faire accoucher des enfants juifs. On dit, oh là là, une sage-femme, un chirurgien, hein, c'est vraiment extraordinaire. Il dit que non, c'est pas du tout. C'est-à-dire, c'est aussi vrai. C'est vrai que des grandes choses, elles sont grandes. Mais ce que la Torah, elle veut insister, c'est que ne crois pas qu'on ne peut être grand que par les grandes choses. On peut devenir très grand par des petites choses. Et Rabbi Kous aussi, il s'intéresse beaucoup à cette chose-là. Et il dit qu'en réalité, que ce que la Torah, ce sur quoi la Torah a voulu insister, c'est pourquoi ces femmes-là, elles ont mérité d'être les mères du peuple juif, parce qu'elles se sont comportées avec humanité, comme des mères vis-à-vis des enfants. Ça veut dire que bien sûr qu'on peut être un chirurgien, comme ça il ramène. Il dit, on peut être un grand chirurgien, d'accord? Et vous avez 10 grands chirurgiens. Mais le chirurgien, je dis chirurgien ou sage-femme, n'importe quoi, mais le grand chirurgien, il dit, c'est celui qui va venir après l'opération et aller dire un petit mot au malade, aller le consoler, aller lui parler, aller... Il a fait l'opération. L'opération est extraordinaire, mais comme l'autre. Mais ce qui va faire de lui un homme grand, c'est la petite chose qu'il va faire à côté. C'est ça qui va transformer la entre deux individus, c'est ça qui va faire la différence. La même chose, on peut être une très grande sage-femme. D'accord? Mais ce qui va faire la différence, c'est est-ce que c'est un acte technique avec toute sa grandeur, ou bien cet acte technique, tu vas l'entourer d'humanité, tu vas l'entourer de quelque chose qui va lui donner sa beauté. Il dit, c'est pour cette raison que ces femmes-là, on ne les a pas appelées les deux sages-femmes, les sages-femmes en chef. On s'en fiche qu'elles sont des sages-femmes en chef. C'était des sages-femmes qui s'intéressaient non seulement à faire amener des enfants au monde, mais qui s'intéressaient aussi à ce que le premier regard avec... que la maman, elle a avec cet enfant, ça soit un regard où l'enfant, il est beau, il est arrangé, etc. Et en réalité, il dit, c'est ça qu'on va voir, c'est là-dedans qu'on va voir un grand homme. Un grand homme, c'est quelqu'un qui fait grandes et petites choses. C'est ça qu'il veut déclarer ici. Et voilà pourquoi la Torah, ça ne l'intéresse pas de savoir qu'elle s'appelait Myriam et Yochebed. On s'en fiche qu'elle s'appelait Myriam et Yochebed. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on les avait surnommées la chanteuse et l'arrangeuse de bébé. C'est ça qui fait qu'elles sont grandes. Et il dit cette phrase, la Katav Rambam. C'est bon? Et il va faire relier cette idée-là avec une idée que dit Rambam. Katav Rambam Bishmona Prakim. Le Rambam, il a écrit dans Shmona Prakim Perek Hamishi. Deux points. Veyassim le Neged Enav Tamid. Et il mettra devant ses yeux tout le temps un seul but. Un homme, il doit avoir devant les yeux toujours un seul but dans toute sa vie. C'est quoi? Vei asagat Hashem idvarach. C'est arriver à percevoir Akadosh Baruch Hu dans sa vie. D'accord? Arriver à lui donner une place dans sa vie. Et donc, comment il fait ça? Et il dit le Rambam, Veyasim peulotav kulam. Il doit mettre toutes ses actions. Tenu otav. Ses mouvements, umnochotav, et ses repos, bechol devarav, et toutes ses paroles. Vous soulignez ces trois phrases-là. Ténou Otav, ça veut dire que toutes les actions d'un homme doivent être dirigées vers ce but-là, de percevoir la présence d'Hachem. Ténou Otav, que ce soit dans ses mouvements, ou Mnouchotav et dans ses repos, Bechol Devarav et dans toutes ses paroles. Ça veut dire que le Rambam, c'est ça qu'il veut expliquer, que tu n'es pas obligé de percevoir Hachem dans des grandes choses, dans les tfilines. Tu peux les percevoir dans un silence, tu peux les recevoir dans une parole que tu vas dire à un ami. Mais vi'im les atarlit, ça doit t'amener à ce but-là. Ad shelo yehu bipeulotav, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dans ses actions d'avar mipoel aevel, une chose qui est mue par les sottises. Ça veut dire qu'en réalité, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, n'importe quoi. Du sport, de la rigolade, raconter des blagues, boire, manger, n'importe quoi, d'accord ? Mais à condition que ça, ça te rapproche d'Hachem. Elle dit comment ? Rotzel Omar, pour elle, une action, chez Lo Yavi Elzot Atachlit, qu'est-ce qui est le négatif ? C'est une action qui n'amènera pas à ce but. Vers Machal Bazé, l'exemple, Shiyasi Makavana, on doit mettre son intention, sa direction, Bahilato quand on mange, ou Bishtiato quand on boit, ou Mishgalo, et dans ses relations avec son conjoint, Bibriut Gufolevad, à la santé de son corps. Oui, ah, vous voyez, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il dit, ça c'est la parole du Rambam, hein. Oui. Il dit, alors d'accord, j'ai bien compris, qu'avec des petites choses, je fais des grandes choses. Donc maintenant, je vais manger un gâteau, je vais discuter, je vais jouer au Monopoly, d'accord, je vais me marier. Mais comment je fais pour percevoir Dieu? Il dit, non, on ne démarre pas comme ça. Tu ne vas pas chercher Dieu dans un gâteau. Tu ne vas pas chercher Dieu dans la relation de couple, ou dans la relation avec ton copain, ou dans le match de football. Il dit, il y a Bibrio de Gouffo, la santé du corps. Oui, c'est-à-dire que les choses dans l'esprit, alors tu dois construire cette progression. Tu dis pourquoi je fais du foot, pourquoi je mange, pourquoi je bois, parce qu'il faut que mon corps soit sain. Et alors on va à Kavana, Bibrio de Gouffo, et la Kavana, l'intention dans la santé du corps.
Je dis pas bon. C'est-à-dire, il dit que tout ce qui est avant, mettre la Kavana dans manger, boire, la relation, tout ça, c'est pas bon, mais par contre, il faut
non.
La mettre dans le corps.
Non, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et quelle est la Kavana? Il dit, un homme, il doit avoir une seule kavana dans sa vie. Un objectif final, c'est de percevoir la présence d'Hachem. Ouais. Maintenant, il dit ça, c'est un objectif qu'il doit remplir toute sa vie. Mmh. Bon. Alors, en général, nous, on saute les étapes. Et on dit, voilà, quand je bois un verre d'eau, il faut que je pense à Hachem. Quand je mange un gâteau, quand je fais le foot. Voilà. Il dit, non, Rabbi, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas faire du foot et rigoler, manger des gâteaux et boire des bières et penser à Hachem. Ça peut pas fonctionner comme ça. Il dit, tu dois dire quoi la première chose? Briou de Gouffou, la santé de mon corps. Oui.
C'est ça le...
Le Icar de tout ça. Il dit, et qu'est-ce que... Donc, quand on parle de santé, c'est santé physique, santé mentale. Ouais. Ça veut dire rigoler, c'est aussi la santé. aller boire une bière avec... J'exagère un petit peu, hein. Mais disons, aller passer une soirée avec des copains, si ça te donne une bonne santé mentale ou ça te donne une bonne santé mentale à ton couple, ça part aussi de cette intention-là. Il ne faut pas se tromper. La grande difficulté, c'est à se tromper. Mais à Kavana, maintenant, il dit, quelle est l'intention de Bibrio de Gouffo dans la santé du corps? Chez Timtsa à Nefesh, il faut qu'elle trouve l'âme. Kelim Brihim, des ustensiles Brihim saints ou Shlemim et parfaits. Liknot à Chochmot, pour pouvoir acquérir la sagesse, ou knot ma'alot amidot, et acquérir les niveaux de comportement, ou ma'alot asirliot, et les niveaux intellectuels, achia guia, jusqu'à ce que tu arrives le tachlitaou, jusqu'au but qui est le but ultime, oui, de pouvoir reconnaître la présence d'Hachem. Donc c'est très intéressant comme il dit le Rambam, mais on n'aurait jamais dit comme ça si le Rambam ne l'avait pas dit. Ça veut dire qu'il ne faut pas sauter les étapes. D'accord ? Alors maintenant, c'est vrai que dans ta tête, il t'aide à ne pas te tromper. D'accord ? Il te dit, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Tout ce que tu veux, tu le fais. L'essentiel, c'est quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'avoir une bonne santé physique et mentale. Et pourquoi avoir une bonne santé physique et mentale? Pas juste pour être un athlète, etc. Mais parce que quand tu es bien dans tes pompes, d'accord, dans ton corps et dans ta tête, eh bien, tu pourras plus facilement travailler sur les midot ou travailler sur la chorma et donc te rapprocher d'Hachem. D'accord?
Comment on fait pour être bien, comme tu dis, dans sa tête et dans son corps?
Voilà.
Mais c'est toi qui dois savoir. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que c'est qui te rend heureux? Si ce qui te rend heureux, c'est un bon plat, eh bien, tu fais un bon plat. Être heureux, c'est une nécessité. On va traduire là. Ça, c'est le langage du Rambam, oui. Alors, suivant le Rav qui va exprimer cette idée-là, vous l'aurez dans la Chassidoute, vous l'aurez dans le Rambam, chacun il va l'expliquer, il l'exprime différemment. L'idée, c'est la Simcha. Oui, nous on traduit toujours la simcha, la joie. Et pour nous la joie, alors on voit un Breslav qui danse sur la table. En réalité, c'est pas forcément la joie. C'est pas forcément. C'est aussi ça. Mais la simcha, ça peut être juste le bien-être. Ça veut dire que si quelqu'un il est très bien, il a été un dimanche matin, il a fait 2 heures de jogging ou il a fait 1 heure de foot ou du ski avec ses gosses et qu'il arrive, il est bien dans ses pompes. Eh ben, c'est plus facile pour lui de prier bien. Ça dit le Rambam. Si quand tu manges, tu vois, c'est pas une vie d'ascète. Alors vous allez me dire, ah oui, mais ça existe, le jeûne, etc. Alors d'accord, si par exemple, à un moment de ta vie, tu as besoin de moins manger pour différentes raisons, parce que tu veux travailler sur la relation à la nourriture, tu veux travailler, tu veux perdre du poids, ou j'en sais rien quoi. Alors ça peut aussi s'intégrer là-dedans. Ça s'appelle, c'est pas de l'ascétisme, mais tu le fais parce que tu veux être bien dans tes pompes. Tu comprends? Tu le fais pas, tu fais parce que tu dis, bon, je me sens pas bien, j'ai besoin de faire ça et ça. Mais pourquoi tu as besoin de te sentir bien? C'est ça qui va faire une différence. J'ai besoin de me sentir bien pour que ça fasse un keli pour pouvoir accéder à la connaissance d'Hachem. Ok? Donc en réalité, c'est en ça que Rabbi Roucham, il dit, c'est ça qui rejoint mon idée. Qu'il n'y a pas des petites choses dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses importantes. Oui, il n'y a pas des choses, le chiour et la tuila. Oui, c'est pas... On pourrait imaginer des choses comme ça. Oui, il y a le chiour et la tefila. Mais chanter sous la pluie, c'est rien. C'est des bêtises, chanter sous la pluie. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Tu dis, mais non. Chanter sous la pluie, c'est quelque chose d'important. La preuve, oui, c'est que si tu as un copain qui chante sous la pluie, oui, on ne va pas l'appeler celui qui met les tefilines, celui qui fait mincha. Il y a un type qui fait mincha pendant 2 heures. Oui. Mais non, quand il sort et qu'il pleut, il se met à chanter sous la pluie. Imaginons un type comme ça. Quel nom je vais lui donner? Qu'est-ce qui va le caractériser? Oui, tu pourrais dire, oh, c'est le tzaddik qui met 2 heures pour mincha. Non, il dit, c'est pas comme ça. Le tzaddik qui met 2 heures sur mincha, il y en a plein des tzaddik qui met 2 heures sur mincha. Mais des tzaddikim qui chantent sous la pluie, oui, pourquoi ils chantent sous la pluie? Ils chantent parce qu'il est bien. Il dit, c'est ça qui fait de lui quelqu'un de grand. La preuve, ben, il dit, la preuve, c'est la paracha. On avait 2 sages-femmes qui sont des femmes extraordinaires, qui ont donné leur vie pour faire accoucher des enfants juifs. Et comment tu l'appelles? Une, tu l'appelles la chanteuse. Mais qu'est-ce qu'on se fout qu'elle fait les accouchements en chantant? Qu'est-ce que ça peut faire de faire les accouchements en chantant? L'essentiel, c'est de faire accoucher les gens juifs. Il dit non, parce que chanter, d'accord, elle le faisait avec une kavana. Elle chantait pour rendre l'enfant heureux. Et pourquoi rendre l'enfant heureux? Pour qu'après, sa mère, elle soit contente. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Il y a un but dans tout ça. C'est une petite chose, comme chanter quand on accouche, quand on fait accoucher, tu vas au travail. Quand tu conduis, tu vas chanter. D'accord? Alors, bien sûr, je ne sais pas mettre fin de radio ou des trucs comme ça. On ne parle pas de ça. Tu vas oui, ça c'est à sourd, ça. Mais imagine, tu vas chanter. D'accord? Tu vas fredonner quelque chose. Oui, est-ce que c'est important de fredonner quand on conduit pour partir au travail? Est-ce que c'est grand? Et il te dit oui, ça peut être grand. Pourquoi ça peut être grand? Ça peut être grand parce que tu dis je suis heureux, je suis bien quand je vais faire mon travail. Et qu'est-ce que tu as besoin d'être bien? Ben, je suis bien quand je fais mon travail, comme ça après je peux gagner de l'argent, je peux donner de la tzedaka, je suis bien avec mes employés, je suis un homme épanoui. L'essentiel c'est d'être épanoui. Ben, mais pourquoi c'est bien d'être épanoui? Parce qu'en étant épanoui, ça fait un keli sain pour pouvoir acquérir des bonnes midotes et pouvoir se rapprocher d'Hachem. Le tahlit, c'est celui-là. D'accord? Mais si pour arriver à ce tahlit, tu passes par cet intermédiaire, il n'y a aucun problème. Il dit, c'est ça, le petit point lumineux qu'on trouve dans cette paracha. En réalité, il faut aller chercher loin. Parce que nous, ce n'est pas ça qu'on voit. D'accord? Mais c'est ça, la force de Rabbi Yerucham, c'est souvent ça. De regarder un point de détail et de l'éclairer. Il a regardé le point de détail et dit rien. La Torah nous décrit quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Des femmes qui s'occupaient pendant la Shoah d'accoucher les Juifs. Tu dis, waouh, 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 waouh. Être sage-femme pendant la Shoah, mais c'est le summum du summum, d'accord? On les appelle les sages-femmes de la Shoah. Oui, et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Non, une, elle s'appelle la chanteuse, et l'autre, elle s'appelle l'esthéticienne. Quel rapport ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est pas ça l'essentiel. Ici, c'est ça l'essentiel. D'une petite chose, tu fais quelque chose de grand. Il dit, parce que c'est ça qui va faire la différence. Tout le monde peut être grand en te faisant accoucher les gens pendant la Shoah. D'accord ? On peut tous être grand. Mais quand, en plus de ça, tu rajoutes une petite touche qui va donner de l'humanité, alors c'est ça qu'elle devient grand. Et c'est ça qui lui donne son nom. Regardez, je continue. Mais Ren, je suis trois lignes avant la fin. Kesheitasek liknot mamon. Même quand on s'occupe d'acquérir de l'argent, d'accord ? Où il dit l'argent, le Rambam, même Rabbi Rucham, il dit l'argent, c'est un des pièges les plus grands qu'un homme connaisse. Il dit non, il n'y a pas de problème à vouloir acquérir l'argent. On peut surnommer un homme le blindé. Et c'est ce qui va lui donner sa caractéristique, sa grandeur, ça ne dérange pas. Mais vi'ont el ma'alot ha'amitiot, ça peut l'amener vers des niveaux réels, des niveaux vrais. Et on n'est pas obligé de l'appeler le grand tzaddik parce qu'il fait des mitzvot extraordinaires. C'est un parce qu'il est riche. Ki adam, shiyavo ve'yochal mazon arev el acher. Parce qu'un homme qui va venir et manger un aliment qui est simplement bon au goût, sans avoir une kavana derrière, Zebea Behema et Tzlishavim. Le Rambam dit, moi, cet homme-là, lui et la bête, ils sont égaux. Si derrière le goût pour un aliment, il n'y a pas un tachlit, alors c'est pareil qu'un animal. C'est-à-dire, chacun cherche son plaisir. Si c'est le but, c'est juste uniquement de s'arrêter à trouver un bien-être, ça dit le Rambam. Si pour un humain, c'est trouver le bien-être, alors une BMA aussi, elle trouve le bien-être, elle trouve les meilleurs pâturages et c'est son bien-être. La différence, c'est que l'humain, il va trouver le bien-être qui va l'amener à un tachlit. Et il dit, c'est ça que la Torah, elle a voulu nous mettre en valeur quand elle nous a dit que le nom véritable de ces deux sages-femmes, c'était pas Yocheved et Myriam, c'était Shivra et Poua. Ok ?
Ah, Chavez.
Wait, you can tell me to get...